Bonjour et bienvenue dans les Agités du FLE numéro 16. Les Agités du FLE, c'est le podcast Agito qui associe théorie et pratique de classe. Et aujourd'hui, un numéro consacré à l'illustration en FLE. Et pour m'accompagner, on a tout d'abord Seb. Ça va Seb ?
Eh oui, ça va. Merci, et toi ?
Ben oui, très bien. Très très bien. Je suis très content de commencer ce numéro pour lequel on accueille Jérôme. Comment ça va Jérôme ?
Très bien, merci.
Et d'ailleurs, donc au sommaire de ce numéro, Seb, qu'est-ce qui nous attend ?
Alors au sommaire de ce numéro, avec notre invité qui est enseignant aux Pays-Bas, donc Jérôme Paul, qui est enseignant aux Pays-Bas dans un collège public néerlandais. Il est aussi vlogueur sur le français illustré depuis 3 ans et blogueur sur le françaisillustré.com depuis l'été 2018, donc là c'est tout récent. Et avec lui, on verra un peu la place de l'illustration en classe de FLE, donc ça va être notre principal dossier, les avantages, comment on peut l'utiliser, etc. Ensuite, on aura notre rubrique pour aller plus loin et on terminera par la traditionnelle question de l'invité. Et je propose de commencer tout de suite par le dossier.
Alors Jérôme, donc Seb t'a rapidement présenté dans le sommaire, c'est vrai que nous non plus on te connaît pas très très bien, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton parcours s'il te plaît, pour nous et que les auditeurs apprennent à te connaître ?
Eh bien oui, ça fait en gros 25 ans que je suis aux Pays-Bas et donc de 25 ans plus ou moins que je travaille dans le jeu. J'ai enseigné à divers niveaux, j'ai enseigné à des adultes au tout début de ma carrière dans des instituts privés. Ensuite, j'ai enseigné, j'ai fait des remplacements dans des IUT, enfin l'équivalent IUT aux Pays-Bas. J'ai travaillé aussi dans un lycée professionnel hôtelier. Et depuis une année, je suis dans l'enseignement secondaire. Donc, j'ai enseigné aussi bien au lycée qu'au collège. Et ces dernières années, je suis plus collège que lycée. Donc, voilà pour ce qui est de ma pratique du FLE vraiment en classe devant des élèves et depuis 3 ans j'ai une chaîne YouTube, mais ça fait au moins 5 ans que j'ai commencé plus ou moins à réfléchir à ce problème de l'illustration.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à réfléchir à ça, à l'illustration en particulier ?
Eh bien, j'ai toujours été attiré dans l'enseignement du FLE par des pratiques un peu alternatives, comme je ne sais pas si vous connaissez le TPR ou TPR, Total Physical Response, où là on est obligé, c'est la kinésie, vraiment le mouvement qui permet d'intégrer la langue. Mais j'ai été aussi intéressé par tout ce qui est en dehors du livre traditionnel, c'est-à-dire aussi bien les illustrations ou la vidéo, enfin un peu de tout. Et je voulais proposer à mes élèves de collège une autre façon d'aborder la compréhension écrite. Et au tout début, je proposais donc dans une première phase d'exposition, je proposais la phrase française et les illustrations, avec à côté la traduction néerlandaise. Et ensuite, c'était une phase de compréhension, je reproposais les phrases françaises sans la traduction néerlandaise, et toutes les illustrations étaient c'était dans un fichier Word sur l'ordinateur, parce que j'ai la possibilité d'avoir des ordinateurs à l'école. Toutes les illustrations étaient en vrac, hein, posées au-dessus, et les élèves, avec la souris, devaient montrer qu'ils comprenaient le français en déplaçant les illustrations et en les plaçant en face de la phrase dans le bon ordre. Et ça marchait très bien, et donc ils n'avaient pas besoin de recourir à leur langue maternelle. C'était très visuel, ça fait appel à d'autres intelligences, si on peut dire. Et comme ça marchait très bien, je me suis dit, on pourrait en faire une application pour tablette et smartphone. Et puis, je me suis renseigné, j'ai même contacté une entreprise qui fabrique des applications, mais le tarif qu'ils demandaient était un peu trop élevé. Donc, je me suis dit, ce sera peut-être pour plus tard. Et comme je voulais toujours faire quelque chose avec mon système d'illustration, j'ai laissé de côté la partie compréhension ou interaction où les élèves doivent eux-mêmes, où les apprenants doivent eux-mêmes montrer qu'ils ont compris la phrase en déplaçant des illustrations. Ça, j'ai laissé de côté pour me consacrer plus à la partie exposition. Donc, Et donc, j'ai imaginé les vidéos et je les ai fabriquées. Et puis, j'ai lancé il y a 3 ans ma chaîne YouTube. Et puis, tranquillement, ça... Et puis, donc, ça marche toujours parce que je fais en gros une vidéo par semaine depuis 3 ans. Maintenant, j'ai...
Oui, c'est ça, j'allais dire tranquillement, t'as déjà un bon stock de vidéos.
Quand je disais tranquillement, c'était pour faire connaître ma chaîne YouTube. Au début, je plaçais mes vidéos et je faisais rien d'autre. Hein. Donc, au fur et à mesure, j'ai essayé de toucher un peu les médias sociaux, sur Facebook, sur Pinterest, sur Google+, depuis un an sur Instagram et sur Twitter. Donc, vraiment, et donc maintenant, j'ai presque, il me manque 5 abonnés et j'aurai mes 1500 abonnés, ce qui n'est pas trop mauvais quand même pour une chaîne d'éducation.
Ah bah, de toute façon, après ce numéro, tu les auras.
Hein. Oui, j'espère. Merci d'avance.
Voir doubler.
Je vais appeler ma mère.
On va demander à nos familles. Donc... Non.
Et donc, ces vidéos, on est d'accord, elles ne sont pas pour les profs, hein, c'est plus pour ceux qui apprennent le français. Hein.
À l'origine, oui, c'est vraiment les vidéos sont 100% en français, donc je m'adresse à la terre entière, et c'est pour les apprenants. Mais évidemment, les profs peuvent les utiliser, et je sais que j'ai un contact avec une prof de Colombie qui utilise les vidéos en classe, hein. J'ai eu aussi un contact avec un prof belge flamand qui utilisait aussi les vidéos en classe. Et ce prof belge m'avait demandé si je pouvais pas lui fournir mes présentations PowerPoint, parce que pour fabriquer mes vidéos, j'utilise le programme PowerPoint et j'en fabrique, j'ai tout un système. Mais si je pouvais lui proposer les présentations PowerPoint avec seulement les cartouches, les phrases et les cartouches sans phrases, et comme ça, il pouvait les diffuser, les projeter en classe sans phrase pour faire parler ses élèves.
Ah oui.
C'est-à-dire que les élèves avaient visionné en classe ou à la maison les vidéos, et ensuite en classe, pour les faire parler, ils projetaient seulement les illustrations et les élèves pouvaient ensuite dire les phrases en français ou les écrire.
D'accord. Et c'est pour ça, du coup, c'est grâce à ce prof... de Belgique que tu as pensé à faire le blog?
Non, pas vraiment. Le blog, c'est que je me disais que les vidéos c'est bien, mais j'aimerais bien aussi proposer aussi des exercices interactifs, proposer autre chose, proposer mon matériel que j'utilise pédagogique pour les profs, de le mettre à disposition de tout le monde. Et donc j'ai fabriqué le blog cet été pour ça. Donc sur le blog on retrouve les vidéos, on retrouve des jeux interactifs que j'utilise l'exerciceur H5P pour fabriquer ça. Je commence, hein, donc il n'y en a pas beaucoup de jeux. J'ai écrit quelques articles et je propose une page aussi, un onglet pour les profs où je propose un peu de matériel pédagogique.
D'accord. H5P, Fred et moi, on est déjà fans, hein, de cet exerciceur. On n'arrête pas de le recommander. On est content de voir que toi aussi, tu le recommandes.
Oui.
C'est super.
Et puis, ce qui est très pratique, c'est que donc j'utilise pour mon blog le programme WordPress, hein, et il y a un plugin H5P qu'on peut mettre directement sur sur WordPress. Et donc, je fabrique mes jeux. Par l'intermédiaire de mon blog, et comme ça c'est facile à faire et à placer sur mes posts.
Ouais, complètement. Et tout à l'heure, tu parlais des avantages à utiliser l'illustration, hein. Tu parlais de faire travailler différents types d'intelligence, puis tu as aussi mentionné le fait d'avoir meilleure mémorisation des termes. Tu vois d'autres avantages à utiliser les illustrations comme ça dans un cours?
Premier avantage, c'est un peu de la variété, c'est-à-dire que les élèves peuvent travailler le français sans avoir un livre entre les mains, donc ça change un petit peu. Il y a aussi un avantage, je me suis rendu compte que j'avais un certain nombre d'élèves dyslexiques qui apprenaient mieux ou qui se sentaient plus à l'aise avec le français. Donc, alors, je ne sais pas s'ils apprenaient mieux, mais comme ils se sentaient plus à l'aise, ils étaient beaucoup plus ouverts au cours de français, et c'était déjà un plus, hein. parce qu'ils n'avaient, comme ils n'ont pas besoin de repasser par le néerlandais pour comprendre, donc le néerlandais écrit généralement. Donc pour les dyslexiques, ça peut être un plus, c'est-à-dire d'être plus, enfin d'utiliser plus l'audio, plus l'illustration, le visuel. Et à la limite, on peut se passer de l'écrit en écoutant mes vidéos. Il suffit d'écouter, de regarder pour apprendre.
Et ça, c'est un gros avantage pour la prononciation.
Ouais, c'était un point sur lequel je voulais te poser la question, justement, parce que je crois que dans les vidéos, elles commencent, si je me souviens bien, donc on a les illustrations et on a la phrase donc écrite en français directement.
Ouais.
Est-ce que c'est un choix ou parce qu'effectivement, on peut juste ne pas regarder la vidéo et seulement l'écouter, mais dans ce cas-là, on ne voit pas les illustrations. Mm-hmm. Est-ce que tu as donc préféré avoir directement les deux et pourquoi dans ce cas-là ne pas avoir, vu que tu parles des dyslexiques donc, ou des personnes où la graphie en fait pose problème, ce qui est en fait pas propre aux dyslexiques, c'est que ça rajoute une barrière supplémentaire. Pourquoi est-ce que tu n'as pas préféré mettre peut-être d'abord dire ta phrase avec les illustrations et faire une deuxième diapo, une deuxième cartouche avec justement là, en deux temps en fait. Est-ce que c'est un choix conscient de ta part?
Oui, au tout début, dans les toutes premières vidéos, c'est-à-dire les 30 premières vidéos, il y avait l'exposition visuelle et sonore, ensuite l'exposition visuelle, sonore et écrite, mais ça rallongeait énormément la vidéo et auprès des gens à qui j'avais montré ça, ils me disaient on décroche parce que c'est trop long. Donc pour raccourcir, pour éviter que les gens décrochent, j'ai supprimé la part seulement audio et visuelle. Mais bon, il suffit de ne pas se concentrer sur la part écrite, enfin, c'est peut-être pas si facile que ça, pour utiliser la vidéo. Mais j'ai un de mes meilleurs élèves, si je peux dire, c'est un Brésilien d'une cinquantaine d'années, qui a déjà un très bon niveau en français, mais qui utilise mes vidéos pour faire des dictées. Donc dans les commentaires, il écoute la vidéo et il écrit en dictée ce que je viens de dire. Après, il me le soumet en commentaire. Comme j'en ai un ou deux qui font ça, c'est pas trop de travail à corriger. Et généralement, ça marche, donc c'est très bien.
Ouais. Et tu parlais beaucoup de supports informatiques, hein, en vidéo, en étiquette, etc. Est-ce que tu les utilises aussi au format papier dans la classe ou pas du tout?
Non, pas vraiment. Non. Je pourrais, mais je ne sais pas. Je pourrais l'utiliser, c'est-à-dire en utilisant des cartouches vidéo, enfin les cartouches que j'utilise, les imprimer et demander aux élèves d'écrire une phrase ou de dire la phrase en fonction. Après, bien sûr, une partie exposition où ils ont écouté la vidéo et vu la vidéo.
Ouais, non, je demande ça parce qu'on avait reçu Guillaume dans un précédent numéro et qui lui n'avait pas tous les moyens informatiques dont tu disposes et je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui sont profs avec peu ou pas d'ordinateur pour les élèves, peut-être un pour le prof mais pas pour les élèves. Donc mais c'est vrai qu'avec avec ce que tu mets à disposition aussi maintenant ils peuvent imprimer.
Hein. Oui, mais si le prof n'a qu'un seul ordinateur à condition qu'il ait aussi un vidéoprojecteur, dans ce cas-là, il peut faire visionner, faire montrer aux élèves la vidéo et il peut utiliser ensuite les présentations PowerPoint, c'est-à-dire les cartouches sans son, mais avec le texte ou avec seulement les illustrations pour travailler avec sa classe.
Ouais, tout à fait, ouais.
Alors, il y a aussi autre chose, je ne sais pas, dans le monde occidental où les ordinateurs c'est quand même assez courant à l'école, mais si une école est pauvre et n'a pas de sous pour acheter des ordinateurs, les élèves ont généralement un téléphone portable, un smartphone, et là ils peuvent aussi regarder facilement des vidéos sur leur smartphone, donc c'est plus en travail.
Oui, c'est vrai que c'est une autre solution aussi. Ouais.
Il y a aussi un truc auquel j'avais pensé, c'est, je ne l'ai pas encore fait, mais il faudrait que je le fasse, c'est créer un groupe WhatsApp hein, et puis régulièrement envoyer des vidéos aux élèves pour qu'ils les regardent. Et, donc, ils peuvent les regarder quand ils veulent chez eux. Voilà.
Et donc, tout ça, donc on a bien compris, il y a pas mal d'avantages par rapport à ça. Au contraire, vu que tu as l'air d'avoir utilisé tes vidéos et ces illustrations pendant un certain temps, est-ce que tu vois un petit peu des limites à l'utilisation d'illustrations comparées à peut-être à d'autres méthodes ou à ce qui est utilisé un petit peu dans les manuels ou et dans le cadre en fait de ces limites, est-ce que tu as déjà eu notamment des problèmes d'interprétation, c'est-à-dire des élèves qui vont voir qui vont pas savoir interpréter les images, même s'ils les ont vues plusieurs fois, qui peut-être au niveau culturel ça passe pas, tu vois ce que je veux dire, ils vont avoir un retour et en fait ils arrivent pas à le connecter même si tu leur as montré plusieurs fois. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus pour qu'on puisse un peu se préparer peut-être à ce genre de choses?
Alors mon expérience est limitée à mes élèves néerlandais, donc ma culture néerlandaise est assez proche de la culture française, c'est au moins une culture européenne, donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner avec une culture asiatique par exemple, mais quand il y a un problème d'interprétation d'une image, enfin d'une illustration, généralement je l'explique, et après la première explication, ça ne pose plus du tout de problème. Par exemple, pour illustrer le verbe « avoir », ça représente une main qui est tendue, paume ouverte vers le ciel, et au-dessus de la paume il y a le globe terrestre. Alors j'explique à mes élèves, si dans ta main tu as le monde entier, ben vraiment tu as quelque chose, et donc tu as le verbe avoir. Et ce lien, une fois qu'il est fait, il ne pose plus de problème.
Oui, donc par rapport à ce que tu dis, peut-être une petite précision pour nos auditeurs qui connaîtraient pas ta chaîne. Moi, de ce que j'ai vu, donc pour chaque, on va dire, donc pour le verbe avoir, tu vas toujours utiliser la même illustration. Voilà, tu as à chaque fois, tu décides d'une illustration. Une fois que tu en as décidé, elle ne bougera plus. Hein.
En principe, non.
D'accord.
C'est-à-dire que pour le verbe avoir, donc j'ai cette illustration là, et c'est toutes les conjugaisons du verbe avoir, enfin au présent. Parce que, en fin de compte, on m'a déjà reproché, c'est bien ton français illustré, mais tu es en train de nous inventer une autre langue, une langue d'idéogramme. Et je leur dis non, pas du tout. J'invente pas une langue. Je propose simplement une aide à la compréhension. Donc, ça ne retire pas que si on veut vraiment comprendre le français et le parler, il faut faire le lien entre quelle est la personne, le sujet, et puis le verbe, etc. Donc c'est seulement un lien, un soutien à la compréhension. Parfois j'utilise aussi une illustration pour plusieurs mots. Par exemple, si je veux... l'illustration, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est l'illustration qu'on retrouve dans Google Maps ou sur toutes les applications où il y a une carte, on voit une sorte de goutte rouge avec un point noir qui est pointé comme une épingle, comme une punaise sur un lieu. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Ouais.
Okay. Le marqueur de localisation.
Le marqueur de localisation, eh bien, comme c'est justement la localisation, je l'utilise à la fois pour la préposition « à », « je suis à Paris », ou pour le verbe « être » quand il s'agit de la localisation. La table est au milieu de la pièce, donc j'utilise vraiment cette même illustration. Et à l'inverse, parfois, j'utilise pour le même mot différentes illustrations. C'est un peu compliqué, mais bon, je pense que... Parce que l'illustration est là pour aider à comprendre. Donc si, par exemple, vous prenez le verbe « être », le verbe « être » a plusieurs sens, en fin de compte. Il y a le sens de l'identité, « je suis Jérôme », dans ce cas-là, j'utilise le signe « égal », hein, mais ça peut être aussi un sens de localisation, justement. Donc là, j'utilise l'illustration... de localisation, mais ça peut être aussi le sens d'attribution. Si je dis mon pull est bleu, je ne peux pas mettre le signe égal parce que bleu, ça n'existe, ça n'égale pas au pull. Donc j'utilise un autre signe mathématique qui est supérieur ou égal. Et donc mais apparemment, ça marche. J'ai pas de problème de ce côté-là.
D'accord. Et tu travailles aussi d'autres objectifs avec, enfin quelles activités tu peux mettre en place aussi avec ces illustrations?
Avec les illustrations, en fin de compte, on pourrait presque utiliser, travailler toutes les compétences habituelles du FLE, enfin en tout cas de l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est pour ça que j'ai développé, mais seulement pour avec 4 vidéos sur un thème particulier, j'ai créé une fiche pédagogique sur les thèmes aimer, ne pas aimer, préférer et détester. Et j'ai fabriquer des cartes avec les illustrations et des cartes avec illustrations de mots. Et les élèves, alors c'est disponible sur le site, il suffit de télécharger, d'imprimer et de découper pour le prof. Hein. Et l'élève a un jeu de cartes. Hein, mm-hmm. Et comme il a déjà été soumis à une phase d'exposition, il sait à quoi correspondent les cartes et il peut. Avec les cartes par exemple qui ont l'illustration et le mot, eh bien fabriquer des phrases sur sa table, par exemple pour ou utiliser seulement les cartes avec l'illustration, il les dispose dans le sens des mots d'une phrase et après oralement il pourrait produire une phrase à partir de ces illustrations.
Ah ouais, du coup, on voit bien là comment tu travailles avec de multiples intelligences en faisant manipuler, oui, etc. Oui, c'est intéressant, ça.
Voilà. À propos des limites, là, c'est plus pour le créateur. J'ai vraiment des grandes limites de représentation. Il y a des mots que je n'arrive pas à représenter parce que ce sont des mots, par exemple, très abstraits. Mais bon, en général, ce n'est pas trop, ça ne pose pas trop de problèmes puisque, en fin de compte, le français illustré s'adresse à un public de débutants. Donc, j'ai pas besoin d'aller trop dans le vocabulaire abstrait.
D'accord. Et tes apprenants, ils intègrent facilement parce que c'est quand même pas une façon de faire qu'on voit souvent. Donc, s'ils commencent pas en apprenant comme ça, ils s'adaptent, ils adhèrent facilement à cette approche.
Oui, quand je commence pas mes cours avec mes premières classes qui n'ont jamais eu de français, vraiment les grands débutants, je commence pas mes cours avec ça. Je pourrais, mais bon, je suis dans un système qui fait que je dois aussi me plier au programme. Donc, il travaille avec mon français illustré en ayant déjà eu quelques cours de français, avec les moyens un peu plus traditionnels du livre, etc. Et il s'adapte très très bien.
C'est presque dommage, effectivement, en tout cas, parce que tu dis que là, ils ont pris des cours plus traditionnels avant. Je pense qu'effectivement, avec des débutants complets, au contraire, peut-être un peu démarrer le français uniquement avec des illustrations, c'est assez rassurant. On n'a pas tous les problèmes de savoir, bon, toi, tu travailles avec des néerlandais, mais quand on a des publics un petit peu variés qui viennent de différentes cultures et de différentes langues, plus ou moins proches du français, si on travaille avec des illustrations, on est plus ou moins du coup tous sur le même pied. On les met tous plus, ils ont tous un petit peu la même, on va dire le même regard sur l'illustration. Alors quand on parle par exemple d'un texte avec une conversation, ben, si vous avez un Italien, des Espagnols et puis un Chinois et des Japonais avec, l'Italien, l'Espagnol, ils vont le lire, hop, ils ont compris le truc, ils vont vouloir le plier et avancer. Les Asiatiques vont très certainement être paumés, alors qu'avec une illustration, ben, du coup, on peut se concentrer sur la production à l'oral, qu'ils puissent écouter les sens. Donc
avec un public aussi divers, et évidemment, on peut commencer un cours, le faire uniquement qu'en français illustré, c'est peut-être un peu ennuyant à la longue, je ne sais pas. Mais on peut tout simplement démarrer un cours avec une vidéo et puis ensuite travailler à partir des illustrations, puis après aller plus vers l'écrit, par exemple. J'essaye de traiter tous les thèmes traditionnel de l'apprentissage au niveau débutant, c'est-à-dire se présenter, la maison, la nourriture, les vêtements, etc. Donc, pour les débutants, c'est idéal.
D'accord. Et une question, en fait, un petit peu en plus par rapport à ce que disait Seb, quand il a posé sa question, ça m'a fait penser à autre chose, par rapport à comment utiliser les apprenants utiliser ces cartes. Est-ce que, tu dis que tu as du matériel, etc., donc on a bien compris que tu mettais les activités en place. Est-ce que par hasard, dans ta classe, du coup, tu as, par exemple, il y a des jeux de cartes qui sont accessibles aux apprenants un peu quand ils veulent et que du coup, qui éventuellement les apprenants essaient de se les approprier de manière un peu plus spontanée, peut-être s'ils ont des moments de discussion ensemble où ils sont censés travailler ou des jeux de rôle, ou peut-être du coup ils ont la possibilité de les prendre et d'eux-mêmes, est-ce qu'ils vont prendre ces cartes du coup et les utilisent en parlant? T'as déjà fait ce genre d'expérience et est-ce que les apprenants se les ont appropriées ou
pas? Non, j'ai pas vraiment fait ce genre d'expérience avec les cartes. mais c'est une bonne idée. Ce que j'ai déjà fait comme expérience, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une de mes collègues qui utilisait aussi mes vidéos du français illustré. Elle a, pour ce qui était, pour introduire une part d'expression libre entre guillemets, elle demandait à ses élèves d'écrire une phrase et de l'illustrer. Donc ils illustraient un peu à la façon du français illustré ce qu'ils avaient écrit. Donc voilà, mais c'était vraiment c'était la seule part vraiment de liberté que les élèves peuvent avoir. Dans mon cours qui est uniquement consacré au français illustré avec l'ordinateur, l'exercice final que je propose à mes élèves, c'est je leur donne un corpus d'illustrations avec le mot et ils doivent me fabriquer de nouvelles phrases. Et ils doivent aussi utiliser l'illustration, donc ils écrivent la phrase et au-dessus ils placent l'illustration pour bien montrer qu'ils n'écrivent pas n'importe quoi. Alors bien sûr, après je dois quand même corriger un petit peu le français et l'écrit, mais généralement j'ai de bonnes surprises.
Et alors, est-ce que tu aurais des conseils un petit peu d'outils ou de ressources? Parce que bon, les illustrations c'est bien, mais est-ce que tu aurais peut-être des liens à nous donner pour trouver ces illustrations ou pourquoi pas pour les faire nous-mêmes? Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs?
Eh bien, d'utiliser. Alors, vous pouvez trouver des illustrations sur tous les moteurs de recherche. Il y a une part image. Le seul problème, c'est que bon, si ça reste au sein de la classe, ça ne pose pas de problème. Mais il y a souvent des droits d'auteur qui sont attachés à ces images. Mais il existe aussi de nombreux sites d'images qui sont libres de droits. Donc, j'utilise par exemple Pixabay. J'utilise aussi FreePic. Et plus français, j'utilise par exemple sur un site qui s'appelle Click Images, qui est fabriqué par Canopé, donc le réseau des académies françaises. Et il y a aussi Picto France, où on trouve un certain nombre de pictogrammes intéressants qui peuvent être utilisés pour amener les apprenants à s'exprimer, aussi bien par l'écrit que par l'oral. Il suffit d'utiliser, de projeter 2-3 images, pictogrammes, et puis leur demander de demander à ce qu'ils s'expriment, à ce qu'ils disent quelque chose, quoi, ne serait-ce que du vocabulaire.
Et tu modifies ces images un petit peu ou tu les prends telles quelles?
Ben, oui, les 3/4 du temps, je les modifie quand même et j'utilise tout simplement le programme Paint sur tout, la plupart des PC. C'est un programme gratuit qui est livré avec le paquet Windows, ou qui était livré, je ne sais plus. Et là, je peux facilement retravailler les images. Et je suis pas un grand dessinateur, j'ai pas une tablette avec un stylo graphique. J'utilise ma souris et je me débrouille très bien.
D'accord.
Il y a certaines illustrations que je demande à ma fille aînée de dessiner parce qu'elle, elle a une tablette graphique pour dessiner et elle sait très bien dessiner. La plupart du temps, je me débrouille tout seul.
D'accord. Ben, écoute, merci pour tous ces outils, tous ces conseils et puis ces bonnes idées pour l'utilisation des illustrations en classe. Puis on va passer maintenant à la rubrique pour aller plus loin. Alors, dans cette rubrique pour aller plus loin, on propose un petit peu des liens pour connaître un peu mieux le thème de l'émission. Jérôme, je crois que tu nous as mis quelques liens en réserve à partager.
Alors, évidemment, il y a ma chaîne YouTube, Le Français Illustré, et aussi, évidemment, il y a mon blog, Le Français Illustré, et j'ai lancé récemment ce qu'on appelle entre blogueurs un carnaval d'articles, c'est-à-dire que je lance un thème et je demande à des confrères blogueurs d'écrire sur ce thème-là. Et justement, le thème que j'ai lancé tout récemment, c'est l'illustration ou le support visuel dans l'apprentissage des langues étrangères. Et donc, j'ai déjà une dizaine de réponses positives et il y aura des articles sur l'utilisation du roman photo, donc c'est aussi illustré en classe, le jeu plus les jeux de plateau en classe ou les jeux de cartes en classe. Il y aura aussi un article sur les jeux vidéo, sur l'utilisation de YouTube en classe, sur l'utilisation d'Instagram en classe, d'Instagram pour apprendre le français. Il y aura aussi sur les cartes mentales, sur l'orthographe illustrée. C'est assez intéressant aussi. Et il y aura aussi sur l'illustration dans les livres de lecture pour favoriser la compréhension. Et aussi l'utilisation des infographies. Les infographies sont c'est une sorte de carte mentale, mais autrement disposée.
Ah ouais, donc, c'est une super initiative, ça. C'est génial.
Oui. Donc, si vos auditeurs sont intéressés par l'illustration en classe, qu'ils aillent sur mon site. Et là, ils pourront être redirigés vers tous les autres blogs qui parlent de ce thème-là.
Ouais, bon, on mettra de toute façon tous les liens dans les notes de l'émission et sur le blog Agito, bien sûr. Fred, t'as des petites choses, toi, pour aller plus loin ?
Alors, dans les petites choses pour aller plus loin, déjà, alors je ne l'ai pas encore écouté, mais je crois que tu as déjà en fait répondu à une interview dans le cadre d'un podcast, Jérôme.
Oui, il y a Marianne Viadé du podcast, du site internet, du blog culturefle.de, parce qu'elle est en Allemagne. C'est un site intéressant qui est assez nouveau aussi pour les profs de FLE, et elle m'avait aussi interviewé sur le français illustré. Donc il y a un petit podcast qui dure, 10 à 15 minutes sur son site.
D'accord. Donc je pense que ça peut être une première chose.
Sur son site, elle propose aussi, elle s'est lancé un défi de une astuce par jour, et une de ces astuces, c'est la dictée illustrée. C'est-à-dire que le prof fait une dictée, enfin lit un texte, et l'apprenant dessine ce qu'il entend pour montrer qu'il a bien compris de quoi il s'agit. Donc on peut avoir par exemple un personnage qui est en noir et blanc, on parle de ses vêtements et des couleurs de ses vêtements, et l'élève avec ses crayons de couleur va colorier en vert si on parle du pull vert, le pull en vert. Donc c'est une façon aussi d'utiliser l'illustration.
Ah, et puis si c'est seulement du coloriage, ça va, hein, mais s'il faut faire des dessins, je crois que je serais vraiment nul pour ces dictées.
Oui, mais ce système-là, je l'ai utilisé il y a très longtemps, enfin il y a un certain temps en classe, et je demandais de dessiner une maison à partir de formes géométriques. Je dessine un carré, dessine un triangle sur le carré, et je réussissais à leur faire dessiner une maison pas trop mauvaise. Ça allait quand même.
On voyait que c'était une maison, quoi.
Oui.
Sinon, donc, sur le thème de l'illustration, au niveau théorique, j'ai envie de dire, j'ai pas énormément de ressources à proposer, mais là on va voir tout ce dossier que Jérôme est en train de mettre en place, donc je pense que ça va être déjà pas mal. On peut rappeler aussi donc que sur Agito on a publié quelques ressources assez graphiques. On aime bien le graphisme, effectivement l'illustration pour faire parler et pour interagir avec les apprenants. Il y a aussi ce que Tiffany, hein, qui contribue au site, mais qui avait avant le blog Bonjour Fleu et qui est maintenant sur Mondolingo, c'est son nouveau projet. Elle fait beaucoup de ressources qui sont très très graphiques. Elle utilise des beaucoup d'icônes, etc. Donc si la démarche proposée par Jérôme vous intéresse, vous avez déjà donc tous les documents proposés par Jérôme, et il y a donc pas mal de sites quand même aussi, ou d'autres, en tout cas d'autres enseignants qui proposent des ressources illustrées si vous n'avez pas encore envie d'aller chercher des illustrations vous-même et éventuellement de les retoucher un petit peu avec un logiciel. Il y a de quoi faire. Toi, Seb, tu aurais des idées pour cette rubrique, pour aller plus loin? Tu as des propositions?
Ouais, si vous voulez créer vos icônes, alors moi j'avais déjà essayé et c'est pas toujours simple. C'est vrai qu'une fois j'avais voulu mettre une icône de pâtes, donc des spaghettis, et j'avais trouvé un bol avec des nouilles, donc ça faisait un peu udon comme ça, mais avec beaucoup de nouilles au-dessus. Et j'ai quelqu'un qui a cru que c'était du tricot, donc il faut faire attention un petit peu à ça. Mais en tout cas, il y a deux sites. Alors il y a un site dont toi, Fred, je sais que tu es fan parce que tu utilises beaucoup, c'est le site de Narn Project.
The Narn Project, oui.
Avec des icônes qui peuvent être gratuites aussi. Et moi, un autre site que j'utilise beaucoup pour trouver des icônes, c'est Flat Icon. www.agitéduflux.com, qui est un peu le même principe avec peut-être des icônes plus colorées. C'est plus accessible parce que toi, Fred, tu te débrouilles déjà bien en graphisme. C'est pas mon cas, moi. Et donc là, j'ai des icônes qui sont un peu directement colorées avec un éditeur pour retoucher les couleurs et tout ça directement dans le site. Donc c'est un peu plus facile d'accès, on va dire, pour ceux qui, comme moi, sont des keys en graphisme. Et puis on avait aussi un podcast où tu avais interviewé un graphiste. Ça peut être intéressant de le réécouter aussi. J'ai oublié son nom.
C'était Geoffrey Dorn.
Ouais, Geoffrey Dorn, qui nous avait donné quelques petits trucs aussi pour faire des documents un petit peu plus graphiques. Donc, ça peut être intéressant à réécouter. Mais voilà, c'est à peu près tout pour mes ressources pour aller plus loin.
Et bien alors, vu que cette rubrique est terminée, on a déjà fait pas mal de tours, on va finir avec notre nouvelle rubrique désormais rituelle, qui est la question de l'invité. Donc, Jérôme, nos invités maintenant posent une question à la communauté, qui en discute après dans les commentaires. Quelle serait ta question? Qu'est-ce que tu as envie de demander un petit peu aux agités du monde entier?
Eh bien, en 2017, j'ai écrit et publié une série de 17 articles polémiques. Le titre générique de ces 17 articles, c'est « L'avenir de l'enseignement des langues étrangères ». Et donc, dans ces articles-là, je me posais des questions et j'essayais de titiller un peu les profs en leur disant « En fait, attention, peut-être que votre emploi va changer, peut-être disparaître, je ne sais pas. » Donc ma question pour les profs de FLE, mais aussi de langues étrangères du monde entier, c'est comment voyez-vous l'enseignement des langues étrangères dans 10 ans, dans 25 ans?
Eh bien, un vaste programme. On va pouvoir se lâcher et mettre plein de bonnes choses.
Ouais, n'hésitez pas à répondre, à donner vos opinions dans les commentaires de l'émission directement sur le site. Et ben on verra ce que vous pensez dans 10 ans ou 25 ans. Est-ce que vous serez encore en activité ou pas? Mais en tout cas, voilà, c'est terminé pour ce numéro 16 des Agités du Fleu. Alors, vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'émission et sur le site Agito. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et des commentaires sur iTunes. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et puis, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodCloud, sur Apple Podcasts, Spotify et Google Music si c'est disponible dans votre pays. N'oubliez pas que la discussion se poursuit dans les commentaires du site Agito et sur la communauté. On vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes et d'ici là, bon cours.
Bon cours à tous.